La situation est très précaire, pauvreté absolue, pratiquement tout le monde est en chômage, 80% plus ou moins. Donc en réalité, c'est les pays les plus pauvres de l'Amérique centrale et latine et l'Amérique tout court. C'est-à-dire il y a une exclusion aux soins, il n'y a pas des maladies particulièrement virulentes ou difficiles, mais par exemple les femmes n'arrivent pas à accoucher dans un endroit correct pour des raisons liées à l'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas des moyens. Des services très précaires publics de la santé, donc il faut penser que l'espérance de vie moyenne est très faible. 48 ans, 52 pour les femmes, donc... Ça s'explique très très bien à la crise en général d'Haïti.
Est-ce que c'est pour ça que la criminalité augmente? Parce que les gens ne trouvent pas d'autre manière de survivre?
Certainement, le fait qu'il n'y a pas d'argent pousse les gens à prendre des décisions difficiles. Prendre une arme et commencer à faire des braquages, des choses comme ça. Je pense que c'est les pays dans le monde qui a plus de kidnapping après la Colombie. Ça donne l'idée de l'instabilité et la criminalité d'Haïti, qui nécessairement est poussée de cette insuffisance économique.
Pour revenir sur les violences, elles sont quotidiennes? Est-ce qu'elles sont importantes? Elles se qualifient comment?
Elles sont quotidiennes, malheureusement. Au début, quand j'ai commencé à travailler, j'avais l'impression d'être dans une guerre, même s'il n'y avait pas de guerre déclarée, mais le nombre de plays par balle était absolument similaire à n'importe quel conflit. Dans la zone où on travaille maintenant, Martissan, il y avait, quand j'ai quitté, à la fin de janvier, grosso modo 3-4 morts par jour. Il y a des gangs qui sont un contre l'autre, et donc il y a tous les jours des gens sous la route qui restent tués. Et il y a une violence, de toute façon, il y a les raquettes, il y a une situation de violence urbaine plutôt importante.
Mais est-ce que quand on est dans la rue, on sent cette atmosphère-là?
Oui, bien sûr. Hein. À Cité-Soleil surtout, il y a des initiatives de la part de la MINUSTA contre les bandits, des opérations pour attraper les groupes armés. Et là, c'est comme une petite guerre, hein. Ils tirent partout avec des armes lourdes, des Kalachnikov, des M16. Donc oui, on sent les gens qui ont peur, quoi. Et tout le monde, d'un côté ou de l'autre, est touché de cette dynamique. Les enfants à la maison, les femmes parfois sont touchées parce que les projectiles passent dans les tôles et ils tuent les gens. Donc une situation de stress quotidien et de pression insoutenable de toute façon.
Vous parlez des actions qu'a entreprise l'ONU, c'est assez récent, puisque le nouveau gouvernement a essayé de négocier avec les gangs.
L'idée un peu de gouvernement, c'était on fait l'apaisement social, on essaye de demander aux chefs des quartiers, aux groupes armés de remettre les armes et commencer une période de réinsertion sociale. Mais effectivement, ça n'a pas marché. Et la décision du gouvernement, c'était d'appuyer les UN à faire des activités plutôt musclées dans les zones à risque. Et ça a déterminé vraiment une courbe qui monte encore des violences dans les quartiers.
L'effet de ces opérations musclées dans les quartiers, comment les gens le perçoivent sur le terrain ?
Certainement, les gens qui habitent la bidonville se sont attaqués, se sont absolument ciblés par les UN. Ce n'est pas une force nécessairement de libération. Pour les gens, on les voit comme un agresseur blanc qui rentre dans les quartiers et qui essaye d'attraper les gens. Et le fait qu'on discute à l'ONU les nouveaux mandats, il y aura certainement des gens, surtout dans les quartiers défavorisés, qui n'apprécieront pas le fait que la MINUSTA reste en Haïti. Ça, c'est clair.